Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. La lutte contre le VIH-Sida en RDC. Plusieurs observateurs plaident pour un accès facile aux antirétroviraux et un renforcement des actions de sensibilisation dans la lutte ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires pour rendre cette lutte efficace. Parmi les structures engagées dans cette lutte figure le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, qui fête ses 10 ans d'existence le 17 mars prochain. Quelle est la situation de la lutte contre le VIH-Sida dans votre milieu et quels sont les défis à relever dans ce domaine? Nous en parlons en direct avec Dr Henri Mokumbi, directeur exécutif des ACS à Mokongo, une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. J.R. Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Willem Lungamba. Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. 081 890 4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Comment évolue la lutte contre les VIH-Sida dans votre milieu? Vous vous souvenez, lors de notre dernière émission avec le PNMLS autour de cette thématique, plusieurs voix se sont fait entendre pour renforcer la sensibilisation, mais aussi la lutte dans le cadre de la mobilisation de ressources ainsi que l'accès aux antirétroviraux. Notons par ailleurs que le PNMLS le 17 mars prochain, en fait, c'est 10 ans d'existence en RDC. Mais nous profitons de cette situation pour faire le point avec vous sur la lutte contre le VIH-Sida dans votre milieu. Quels sont les défis à relever pour l'avenir là où vous êtes? Comme je le disais tout à l'heure, nous aurons en direct dans cette émission Dr Henri Mokumbi, directeur exécutif des ACS à Mokongo, une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Quels sont les témoignages dans votre milieu par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et nous allons en discuter ensemble avec vous dans cette émission. Comme je le disais tout à l'heure, Dr Henri Mokumbi est avec nous en ligne dans cette émission. Dr Henri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Radio Capi pour faire le point sur l'évolution de la situation de la lutte contre les VIH-Sida dans notre pays, les défis qu'il faut relever, les difficultés que vous rencontrez, vous qui êtes sur terrain avec Amo Congo. Quand on regarde l'évolution de la situation aujourd'hui, pensez-vous que la lutte contre le VIH-Sida évolue dans un sens positif à travers le pays, que ce soit pour n'importe quel partenaire qui est engagé dans ces domaines?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis à Kolwezi, je réponds de très loin, mais au Congo. Est-ce que la lutte contre le VIH évolue positivement? Je pense que oui. Les défis sont nombreux. Si nous regardons avec un regard derrière, au cours de 20 dernières années, on avait pas mal de choses à faire et on en a franchi certaines. Aujourd'hui, nous avons encore plus de 600 000 personnes à mettre sous traitement antirétroviral et on est déjà au-delà de 60 000, ce qui est une chose, un pas déjà d'avancée. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui aussi, on a une sorte de stabilité de l'épidémie. Elle n'est pas partie vers le haut, mais elle est pressée stable autour de 2% de près à 3. Ça signifie aussi qu'on a fait beaucoup d'efforts de prévention, mais aussi beaucoup d'efforts de l'atténuation de l'impact, c'est-à-dire des traitements des malades. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que dans les milieux ruraux principalement, il n'y a pas de traitement. Et il y a beaucoup d'infections aussi. Et aujourd'hui, il y a des cibles nouvelles, notamment les enfants qui naissent des femmes séropositives qui sont encore très nombreux. Notre pays n'a achevé qu'à peu près autour de 5% de cette couverture. Donc, on a 90% des enfants qui naissent encore des mères séropositives qui n'ont pas l'argent de participer à la PDME. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il faut beaucoup de moyens. Il faut aller de l'avant.
Mais quand
nous sommes positifs, Nous faisons avancer, mais il y a encore beaucoup à faire.
Docteur, mais on sait aussi que pour avoir des chiffres fiables, il faudrait arriver aussi à au dépistage, c'est là aussi pose assez de problèmes dans notre milieu. Pensez-vous aujourd'hui que sur les plans sociaux, beaucoup de gens ont tendance à se faire dépister, parce que c'est ça aussi la grande lutte, c'est amener les gens à se faire assez dépister pour savoir comment les prendre en charge. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport au dépistage volontaire comme on a toujours souhaité?
Oui, disons que ça, c'est vraiment mon expérience encore très pratique. J'ai dirigé des vingtaines, des trentaines de centres de dépistage à travers mon pays, à travers le pays. Mm-hmm. Il y a 10 ans, quand on vient des centres, on recevait à peine 3-4 personnes par semaine dans nos centres. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, on reçoit jusqu'à 20-30 personnes par jour qui viennent pour faire le dépistage. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, c'était 3-4 personnes par semaine. Mais là, je parle de par jour, à Kinshasa, par exemple. Mm-hmm. Donc, en effet, les gens ont de plus en plus accepté de passer le dépistage. Tout simplement parce que nous sommes aussi dans un moment où on offre des soins, on offre des traitements après. Mais ceci dit, ça c'est dans des centres spécialisés comme le mien ou quoi, où les gens sont habitués à venir. Mais encore, ces centres ne couvrent pas l'ensemble du pays. Mm-hmm. Ça pose un problème. Et comme tu l'as dit, en effet, le dépistage est important pour accéder au traitement, pour commencer de nouvelles thérapies. Mais on a initié, par exemple, le dépistage initié par les prestataires. Ça, c'est encore une autre stratégie. Il ne faut pas seulement le dépistage volontaire quand les gens viennent eux-mêmes mm-hmm. au centre pour vouloir savoir la sérologie. Maintenant, il est demandé à tout praticien de la santé, médecin, infirmier, à l'occasion de n'importe quelle visite médicale, de proposer à offrir un dépistage à son client ou à son malade. Ça, il y a encore pas mal de médecins qui ne le font pas, pas mal d'infirmiers qui ne le font pas. Donc le défi n'est pas seulement un défi des personnes volontaires qui viennent, il y a encore un défi de nous, personnels de la santé, nous devons aussi initier ça. Donc le gouvernement pousse dans ce sens-là. Là, nous pensons que nous pourrons largement aller vers le dépistage. Mm-hmm. Dans les centres où il y a la maternité, il faut presque systématiquement encourager les femmes à passer le test VIH, ce qui n'est pas fait toujours partout. Donc c'est encore une logique qu'il faut que les gens comprennent. Mais aussi les maris qui épousent leurs épouses doivent comprendre qu'on doit faire le test. Donc en effet, comme tu dis, ou comme vous le dites, le test est quelque chose qu'il faut faire presque pour tout le monde. Mais il doit être volontaire, il doit être gratuit aussi, parce qu'il coûte quand même un prix. Ça, c'est encore une autre terme de manche. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, les chiffres sont nombreux. Le test de dépistage, en moyenne, peut être autour de $5. C'est-à-dire des intrants que nous utilisons. Quand même qu'ils sont fournis gratuitement par le gouvernement, le Fonds mondial, ça coûte à peu près $5. Dans les milieux où on est là, ça a donné. Mais dans les milieux où il n'y en a pas, en zone de santé où il n'y en a pas, il faut que les gens payent. Mmh. Donc ça pose encore un problème de filet d'accessibilité en termes d'argent qu'il faut payer pour faire ce dépistage-là. Mmh. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a un grand progrès. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire le dépistage facilement parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent savoir, parce qu'ils veulent commencer le traitement. Mmh. Ça, j'ai le témoin, je l'ai dit, à Kinshasa, on a commencé avec 5 personnes par semaine. Maintenant, nous avons 20 personnes par jour. Et parfois même, quand nous faisons du dépistage mobile, avec un car mobile qui va au rond-point Gaba ou, je ne sais pas moi, au rond-point Victoire, en une journée, on peut avoir 200 personnes qui acceptent de passer le test. Mmh. Et volontairement, comme ça sur la rue. Donc, il y a des villes où les choses vont vraiment changer. Oui. Et ça, c'est important dans votre émission, comme nous le disons. Quand les gens écoutent des informations comme ça, ils comprennent qu'ils peuvent aussi aller faire le dépistage. Mmh. Aujourd'hui, on sait ça facilement du counseling et on vous conseille des alternatives convenables. Par exemple, il y a les soins, on peut commencer le traitement plus tôt et tout. Donc, il est mieux de connaître la sérologie aujourd'hui que de ne pas le connaître.
Mmh. Oui, nous allons aussi écouter les auditeurs. Mais avant, docteur, je me rappelle encore, en 2012, vous deviez participer à la 19e conférence internationale sur le sida qui était, c'était à Washington. Et là, vous aviez fait les plaidoyers autour de l'accès aux antirétroviraux. Vous aviez dit, c'était encore très difficile, les tableaux n'étaient pas vraiment on peut dire mieux pour la RDC, mais partant de ces moments où vous avez fait ces plaidoyers en 2012 lors de cette conférence et aujourd'hui en 2014, est-ce qu'il y a eu quand même au niveau du pouvoir public une volonté, un engagement qui a permis quand même qu'on améliore tant soit peu la situation d'accès aux antirétroviraux?
Disons que la situation globale d'accès aux antirétroviraux n'a pas beaucoup changé. Mm-hmm. En 2012, en effet, quand nous étions à Washington, nous étions autour d'une couverture de la population en ARV qui était autour de 10%, mm-hmm. qui avait accès aux ARV. Aujourd'hui, nous sommes autour de 12 à 15%, ce qui est encore largement peu. Mm-hmm. Quand nous avons 12 à 15% de ceux qui accèdent, c'est-à-dire nous avons 85% de ceux qui n'accèdent pas. Mm-hmm. Si nous parlons en termes négatifs, il faut comprendre des choses comme ça. Donc, ça doit être stimulé. Quand nous avons 10% seulement accès, c'est-à-dire 90% n'ont pas accédé. Donc, moi, en tant que santé publique, je préfère parler de ceux qui n'ont pas accédé pour pouvoir pousser le pouvoir public. Bon, mais en ce qui concerne la participation du pouvoir public, il faut dire qu'en effet, le gouvernement actuel a fait des efforts en termes de mobilisation d'argent. Il y a eu des participations gouvernementales qui n'ont jamais été faites depuis plusieurs années, mais ceci n'a amené que, d'abord j'ai dit grosso modo, nous attendons en ce qui concerne la participation du gouvernement à la santé, de 15% du budget de la République soit affecté à la santé.
Oui.
Et là, nous ne sommes pas au-dessus de 6%. Et dans ces 6%-là, il faut une bonne part pour le sida. Et nous sommes encore très bas. C'est vrai que les chiffres ont augmenté de 3 à 4 millions cette année. On peut les féliciter, mais ce n'est qu'un petit pas dans ce que nous attendons. Donc, il y a des petits progrès, mais c'est déjà bien qu'il y ait ces petits progrès, parce que le progrès n'était pas là encore pendant longtemps. Donc, il faut encourager le gouvernement à aller de l'avant. Mais ce que nous attendons, c'est des grands pas, des pas de géants. Donc là, nous sommes autour de 15 à 12% de la population, 15% de la population qui sont sous traitement antirétroviral. Et les autres qui attendent. Et encore, en 2012, les critères d'inclusion pour les traitements antirétroviral, notamment, les critères, c'était les CD4. Bon, c'est un indicateur de santé hein, immunologique. Comme on sait tout pour nos auditeurs, c'est tout simplement les CD4, c'est-à-dire la défense. C'est un indicateur de la défense. Il fallait commencer à 350 CD4. Mais aujourd'hui, l'OMS nous demande de commencer à 500 de CD4. Pour, juste rapidement dire, le traitement sert au traitement curatif, mais aussi à la prévention.
Oui.
Les gens qui sont sous traitement bien traités, la charge virale diminue à un seul et des étapes et ils deviennent moins contaminants. On pense aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont malades devraient être moins contaminantes actuellement. Et même des personnes séropositives, encore saines, c'est remise sous traitement pour qu'elles puissent être contaminées. Et là, nous parlons maintenant du traitement comme prévention. Et là, l'OMS a donné des nouveaux indicateurs depuis le décembre de l'année passée. Nous commençons à 500 de CD4. Ce qui signifie quoi pour le Congo? Quand nous étions à 350 de CD4, il fallait attendre à peu près 600 000 malades à mettre sous traitement antirétroviral. Mais comme nous sommes passés à 500, ça fait presque doubler. Donc nous sommes au-delà de 1 million de malades congolais à mettre sous traitement antirétroviral.
Oui.
Donc autrement dit, la couverture qui était à l'époque de 10% pour 600 000, là nous sommes maintenant à 1 million, au lieu même d'augmenter, nous pouvons même dire que nous avons régressé en termes de couverture, 8 à 10%. Donc ça pose encore des problèmes.
Merci.
C'est-à-dire on a fait un petit pas, mais il y a encore beaucoup à faire.
Beaucoup à
faire. Le plaidoyer doit continuer. C'est pourquoi nous saluons votre émission, parce que ça nous permet encore de faire du plaidoyer auprès de nos autorités.
Merci, docteur Henri. On vous garde en ligne. Hein. Les auditeurs sont intéressés par cet échange hein, dans votre milieu, à Kananga, Mbujimayi, à Kolwezi, où se trouvent les docteurs, à Lodia, partout où vous nous suivez, à Zongo, pourquoi pas aussi à Bukavu, à Goma. Dites-nous comment vous appréciez les activités de lutte contre le VIH/SIDA dans votre milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer selon la situation que vous faites dans votre milieu. Appelez-nous au 081-890-4969 pour intervenir en direct. Joseph et Mathieu, nous allons vous accorder la parole après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Joseph, vous êtes à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, mais c'est heureux de m'avoir encore accordé la parole. Nous remercions aussi l'invité qui est au plateau, qu'il est bien outillé dans sa matière. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, nous remercions puisque c'est la jeunesse qui est emportée par la sexualité. Mais aussi avec les programmes des PNMLS, je me souviens il y a 3 ans, je suis parti participer à leur émission pour faire la motivation de lutter contre le VIH. Alors, de tout ce qui se passe au Congo, précisément à Bukavu, je veux bien que la lutte continue, mais il y a encore quelques problèmes, puisque si on ne fait pas vraiment des séminaires, c'est un peu difficile, et surtout dans des milieux universitaires, puisque ce sont les étudiants, je dirais, qui sont emportés par les fléaux du sida. Alors, ce que moi je pourrais dire, c'est vrai, les préservatifs et la fidélité, mais aussi l'abstinence, c'est ça l'objet principal et de lutter contre ces fléaux. Alors, moi je voulais dire que on fait tout ce qu'on peut faire, mais le sida prend une grande ampleur, disons une grande ampleur dans toute l'étendue de la République. On fait ce qu'on pourrait faire. Mais ce que je devrais privilégier davantage, c'est faire les séminaires à ceux-là qui ont une notion et comprendre que signifie le VIH. Au moment où je vous parle, je vous dis en vérité, dans cette province et dans toutes les périphéries de la ville, il y a ceux-là qui ignorent encore que le sida existe. Alors, moi, ça dépend de tout un chacun, on a la liberté, il y a ceux-là qui veulent faire les rapports sexuels. Mais il faut que les gens puissent comprendre que signifie le sida. si vous passez dans tous les villages, il y a 5 ignorés, même y compris dans cette ville à Bukavu. Alors, avec ces programmes, j'ai pensé qu'on devrait vraiment militer et lancer très fort. L'essentiel n'est pas de distribuer les préservatifs à n'importe qui, sans pour autant qu'ils puissent comprendre que les VIH existent. Alors, avec les préservatifs, on peut se protéger, mais vous allez protéger une personne qui est ignorée dans la matière des VIH. Alors, il faudrait d'abord informer aux gens et comprendre qu'est-ce que le VIH et pourquoi pas il faut avoir les préservatifs. Mais aussi la fidélité, puisque normalement on doit être fidèle, mais on est faible, et tout être humain est faible. Mais il faudrait informer ça davantage. Et pour l'abstinence, on peut s'abstenir, mais il y a toujours les défauts. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je voulais dire à l'invité qu'est-ce qu'on met en jeu pour sensibiliser toutes les provinces et, disons, de la République du Congo. Et puisque, eu égard à tout ce qui se passe, les Congolais parmi et les pays qui ont un grand nombre de ceux qui souffrent de VIH-SIDA. Alors, ce qui se passe à l'université et avec la mondialisation, le SIDA prend vraiment la première place.
Oui, si on vous a suivi, Joseph,
Pour terminer, je voulais dire à l'invité avec les
programmes. Oui, rapidement, Joseph, parce que vous avez déjà pris assez de minutes, hein, mais je peux bien regrouper tout ce que vous avez dit pour notre invité. Vous insistez beaucoup sur le renforcement de la sensibilisation, surtout en milieu universitaire, parce que vous estimez qu'on peut dire aux gens de pouvoir porter les préservatifs, d'être fidèle et de s'abstenir, mais d'abord il faut passer l'information en amont, qu'ils puissent savoir pourquoi ils doivent le faire, et c'est que pour vous il faut renforcer vraiment la sensibilisation, surtout en milieu universitaire à Bukavu, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent du SIDA. Merci beaucoup Joseph. Mathieu, vous êtes à Kananga, au Kasaï Occidental, bonjour.
Oui, bonjour.
Mais là, on a des petits soucis. Oui, votre téléphone, Mathieu, on ne sait pas vraiment vous entendre. Là, on a des petits soucis des lignes avec vous. Vous êtes dans une maison, peut-être dans un bâtiment. Vous pouvez vous mettre, vous pouvez des fois vous sortir en attendant. On vous écoute.
Oui. À propos de notre thématique de ce jour, à ce qui me concerne, je crois que je suis là.
Oui, Mathieu, vraiment désolé, on ne saura pas aller plus loin. Votre téléphone, la ligne téléphonique entre Kinshasa et Kananga, tout à l'heure, là où vous êtes, n'a pas permis qu'on puisse aller plus loin parce qu'on ne sait pas vraiment vous suivre. Hein, mais nous allons revenir à notre invité, Dr Henri Mukumbi. Vous avez suivi le premier auditeur de Bukavu. Il insiste beaucoup sur le renforcement de la sensibilisation. On sait aussi, c'est vrai, qu'on voit plus de campagnes de sensibilisation sur le VIH-SIDA qui s'organisent quand il y a, par exemple, les journées mondiales ou soit les journées nationales, mais au-delà, en dehors de ces jours, on ne voit pas vraiment les gens un engouement pour la sensibilisation. Même dans la ville de Kinshasa, ailleurs, il y a des structures qui le font, qui descendent à la base, mais on ne sent pas vraiment ces sensibilisations comme une grande préoccupation. Alors, qu'est-ce qui doit être fait dans les stratégies de communication pour permettre à ce que la communauté prenne le problème du SIDA en charge à tout moment, qu'on en parle plutôt qu'attendre des manifestations ou des journées pour sensibiliser ou faire des campagnes ou des séminaires?
Ok, merci bien pour la participation et je salue mon ami Joseph de Bukavu, que j'ai bien suivi. Et votre résumé était très bien. Dommage pour Mathieu. Donc, je disais que c'est un élément important. Quand on parle de la sensibilisation, c'est un terme un peu générique, mais là, toi-même déjà, résumant, tu as mis un mot très important, la communication. Moi, je dirais même plus loin, il faut faire l'information, la communication et les changements de comportement. Ça fait trois étapes importantes. Souvent, on se limite à donner l'information. C'est vrai que les gens ont besoin de savoir. Mais si on se contente de faire des conférences dans les écoles, dans les universités et tout, ça ne suffit pas pour amener les gens à changer le comportement. Le but final, c'est le changement de comportement. Donc, il faut passer par une communication, donc l'émetteur, les récepteurs, il faut savoir ce que les jeunes veulent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs appréhensions, et on répond à ça. Il faut savoir ce que les vieux veulent, les églises veulent, et tout le monde participe. Donc, ce n'est pas seulement une des conférences. Il ne faut pas attendre seulement le 1er décembre pour faire du tralala à la télévision, et puis on s'arrête. quelque chose qui doit être continuel pour amener à un changement de comportement. Aujourd'hui, c'est le changement de comportement qu'il faudrait faire. Quand on parle de la fidélité, c'est un problème de changement de comportement. Quelqu'un qui se dit, je reste fidèle à un partenaire sexuel qui est séro-négatif. Parce que si vous êtes fidèle à quelqu'un qui est séro-positif, c'est pas sûr que vous ne le serez pas, vous ne le serez pas aussi. Donc, mais quelqu'un qui se décide de se vivre à deux, il vit à deux. Quelqu'un qui se décide de dire, je n'utilise pas les préservatifs, c'est un changement de comportement qu'il faudrait qu'il rassure qu'il a changé complètement de comportement pendant 6 mois il utilise, pendant 6 mois il n'utilise pas, pendant 6 mois il utilise. Donc, les activités doivent être des activités qui amènent au changement de comportement. Cela implique quoi? Ça implique que l'autorité donne les moyens, ça implique qu'il y ait aussi l'espace social qui comprenne le problème du genre, par exemple, la problématique de la femme, la problématique des jeunes, ça implique aussi que le dépistage soit fait. Ça, c'est un changement de comportement. J'ai entendu, est-ce que je suis parti faire mon dépistage ou je suis resté seulement passé au préservatif? Et tout ça, c'est important. Et même quand on parle de préservatif, c'est bien de donner la formation. Est-ce qu'on a donné des moyens, des services disponibles? Moi, dans mes tournées, là, je suis à Corusie, ça va. Mais j'ai été dans certains milieux du Congo où il n'y a pas de préservatifs dans les pharmacies ou même dans les petites pharmacies qu'ils trouvent. Je connais des milieux où des jeunes ont utilisé des sachets, des bandes de fer, des sachets que nous avons achetés. À la limite, encore, c'est bien parce qu'ils ont utilisé des sachets, mais c'est pas normal. Donc, on peut bien parler des préservatifs, il faut en cliquer, elle est partout. Les militaires qui vont dans les camps, dans les guerres, partout, est-ce qu'on a prévu dans leur trousse des préservatifs? Les étudiants qui sont au campus, est-ce qu'il y a des centres de distribution de préservatifs? Donc, il faut donner de la formation, il faut échanger, savoir ce que les gens veulent, il faut aussi créer un espace où il y a les services sont disponibles, où les dépistages sont disponibles, où les préservatifs sont disponibles, où tout ce dont on a dit pour que la chose soit plus facilement faite. Donc, j'ai salué un autre ami, il faut qu'on continue, on ne doit pas s'arrêter, et puis ce n'est pas l'affaire d'un groupe qui descend pour les communiquer, c'est l'affaire de toute la communauté. Les églises aujourd'hui ont une part à jouer dans la lutte contre le sida. Pas seulement en termes d'information, communication et changement, mais en termes de prise en charge. Les écoles, il faut qu'il y ait des clubs de jeunes de lutte contre le sida. À l'école primaire, à l'école secondaire, pour que ce soit un mouvement et non pas un événement ponctuel. Le club des jeunes informels ou formels, tout ça doit être organisé. Donc c'est pas seulement 2-3 ONG qui doivent descendre à l'occasion de la journée mondiale du sida, ça doit être fait. Les entreprises, il faut créer un espace dans chaque entreprise de lutte contre le sida. Les affiches, les communications, les responsables des entreprises, les managers doivent être même des exemples des lutteurs contre le sida. C'est ce qu'on appelle un environnement favorable à la lutte contre le sida au sein des entreprises.
Voilà.
C'est tout ça ensemble qui amène au changement et qui peut amener à une protection de toute la population collective.
Oui, docteur, vous avez parlé des cibles nouvelles en attendant qu'on ait d'autres auditeurs parce qu'on a des petits soucis des lignes téléphoniques avec les différentes villes à travers le pays. Mais vous avez tout à l'heure évoqué les cibles nouvelles, les enfants qui sont nés des mères séropositives. Est-ce qu'il y a seulement ces enfants-là qui sont des cibles nouvelles ou bien, d'une manière globale dans la société, il y a aussi d'autres cibles qui s'ajoutent au fur et à mesure que vous travaillez sur terrain?
Oui, donc en fait l'idée des cibles nouvelles est partie de la stratégie. Les 100 prochaines affections devraient être assez en termes global, en termes de pourcentage. On pense qu'à peu près une cinquantaine de pourcents viendraient des couples stables qui vivent, mais des hommes ou des femmes qui vont avoir des rapports sexuels à l'extérieur.
Oui.
Donc il faut faire des accents sur ces couples-là. Mais on pense aussi qu'à peu près 10% des nouvelles affections viendraient des enfants qui naîtraient des mères séropositives et qui n'auraient pas eu la chance de participer d'avoir la PPME, la protection de la protection des enfants. Donc aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la protection de la protection des enfants. Il faut que tous les enfants qui naîtront des mères séropositives aient la chance d'accéder aux ALV en amont de leur accouchement. Et aujourd'hui, le Congo est à 5%, mais nous devons aller au-delà de 50%. La plupart des pays en Afrique subsaharienne sont autour de 40%.
Oui.
Nous sommes les derniers autour de 5%. Donc, il faut faire un effort énorme. Mais aussi, on a ce qu'on appelle les populations passerelles et nouvelles. Les minorités sexuelles, dont on ne parle pas beaucoup dans nos pays, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, notamment les proches du sexe, qui deviennent de plus en plus nombreux. Par exemple, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les gens qu'on appelle les personnes qu'on appelle les homosexuels, je m'excuse, il y a des études qui montrent qu'à peu près plus de 20-30% dans ce groupe-là sont séropositifs. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, c'est une question très cachée, mais qui prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes villes, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, ça devient de plus en plus énorme. Et ces personnes-là, souvent, ont des rapports sexuels entre elles, et ont des rapports sexuels avec, ils sont mariés avec leurs épouses. La plupart des homosexuels africains sont aussi hétérosexuels. Donc ça pose un grand problème. Il faut s'occuper de ces minorités sexuelles. Les professionnels du sexe, les 5 prochaines infections aussi dans l'ensemble du temps là, viendront des hommes qui ont des rapports sexuels avec des professionnels du sexe.
Oui.
Donc nous devons mettre l'accent là-dessus.
Merci.
Donc voilà, tout ça, ça fait un peu les nouvelles cibles sur lesquelles nous devons insister. Les minorités sexuelles, donc les MSM, les hommes ayant des sexes avec les hommes, les prostituées, les enfants qui naîtront des mères séropositives, il faut s'en occuper. Et puis, bon, les personnes qui sont déjà séropositives elles-mêmes, il faut continuer à s'assurer qu'elles sont sous traitement médical et que celles qui en auront besoin l'aient. Parce que les personnes séropositives aussi sont contaminantes. Or, nous en connaissons beaucoup qui ont dépassé des dépistages, il faut s'intéresser là-dessus. Donc là, ça nous donne les cibles clés.
Merci.
De la lutte contre le sida pour les prochains temps.
Merci, voilà. Docteur Henri Mokoumbi. Vous gardez la ligne à partir des Kolwezi dans le Katanga. Nous restons dans cette province parce qu'il y a la Guiloa qui nous a appelé, mais lui est à Kalemi. Et puis, il y a Amissi qui est à Kindu dans le Maniema. 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct et mettre votre point de vue sur la lutte contre l'éveil sida, les témoignages dans votre milieu, qu'est-ce qui doit être fait, votre proposition, tout cela. C'est le bienvenu dans cette émission. La Guiloa et Amissi, nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore que nous avons un direct invité pour vous, le docteur Henri Mokoumbi, qui est le directeur exécutif de ACS Amo Congo, une ONG congolaise qui milite dans la lutte contre le VIH/SIDA.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport. Car la passion du sport est sur Radio Okapi.
La Guiloa, vous êtes à Kalemi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot et la Messie. Bonjour à l'invité Dr. Henri Mokoumbi et à JSG et à la réalisation et à la coordination de cette émission.
On vous écoute, la Guiloa. C'est vrai qu'on a des petits soucis, il a plu abondamment à Kinshasa depuis le matin. Des fois, on peut avoir des petits soucis des réseaux, ça peut arriver. Mais bon, on vous écoute, la Guiloa.
Merci. M. Pierrot, pour mieux mener la lutte contre le sida, dans les milieux ruraux que nous sommes, par exemple à Kalemi, il faudrait qu'il y ait une forte sensibilisation dans tous les coins, voire dans la base, et surtout dans les milieux éducatifs comme les cadres, les écoles, les universités. Car le sida est une maladie incurable jusqu'à présent et ça laisse même la médecine impuissante à l'égard des patients. À ce sujet, M. Pierrot, je vois ici, dans le milieu que nous sommes, les gens ont encore cette peur d'être consultés contre cette maladie. Et je profite aussi à dire au programme national de la lutte contre le sida de pouvoir encore renforcer ces stratégies, ces méthodes pour lutter, soit pour atteindre plus de 50% des personnes soignées qui sont atteintes par cette maladie. Auparavant, c'était l'Amérique et l'Europe qui accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. Et à une période récente, l'Asie se disait écartée de ce fléau. Mais aujourd'hui, c'est tous les continents qui sont victimes de la dite maladie. À ce sujet, pour terminer, M. Pierrot, il faudrait organiser les séminaires, les ateliers de renforcement des capacités des médecins qui sont les soignants des patients. Et ces gens, ils sont obligés de respecter les déontologies médicales, c'est-à-dire garder le secret pour une personne qui est atteinte par le sida. M. Pierrot, pour finir encore une fois de plus, l'invité, et il peut me dire, soit me donner les statistiques de 2014 des personnes qui sont atteintes du VIH/SIDA dans la République démocratique du Congo. Monsieur Pierrot, je vous remercie.
Merci, merci beaucoup la Guiloa. Bon, peut-être qu'on aura des difficultés. On est encore en début de l'année 2014. Nous sommes au mois de mars. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut avoir des statistiques déjà de ceux qui sont infectés depuis le mois de janvier jusqu'en ce moment. On pourra voir avec l'invité si c'est possible d'avoir des statistiques comme ça. Mais dis-moi, vous avez insisté beaucoup sur le renforcement de la sensibilisation, mais je retiens ici la difficulté que vous rencontrez à Calémie. Beaucoup de gens ont peur de se faire dépister parce que, comme vous l'avez dit, quand si on se fait dépister, on a peur qu'on dise qu'on est contaminé, on est malade, et tout à l'heure, vous serez indexé au niveau de la société. Alors, c'est ce que nous allons voir avec notre invité. Quelles sont les stratégies en termes de prise en charge? Y a-t-il aussi cet engagement pour la prise en charge psychologique et permettre à ce que les gens ne puissent pas se cacher et qu'ils soient à l'aise de se faire dépister? Et ça aussi, c'est ce qui doit être travaillé au niveau de la société. Merci beaucoup, la Guillois de Calémie. Ami, si vous êtes à Kindu, dans le Maniema, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous un peu, y a-t-il cet engagement, ces soucis de sensibiliser contre les VIH SIDA dans votre milieu à Kindu? Qu'est-ce qui se passe où la situation pose-t-elle des problèmes et faudrait quoi pour que cela puisse s'améliorer, ami, si?
Ok, monsieur le journaliste, je vous remercie d'abord de m'avoir sélectionné. Mm-hmm. J'aimerais dire une chose concernant la lutte contre les VIH-SIDA. Là, on a soulevé les problèmes de la sensibilisation. Et tout au début, vers les années 2005-2006, on avait constaté que il y avait des associations qui s'est lancé dans des campagnes, dans des sensibilisations. Mais pour le moment, dans la vie de Kindu, c'est le silence des cimetières. On ne sent plus si on est en train de sensibiliser les gens. C'est comme si les bailleurs de fonds qui financent ces associations ont coupé à financer ces gens-là. C'est pourquoi ils se sont tués. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter une chose. Dans la ville de Kindu, les maisons de prostitution poussent comme des champignons. Mais on ne dit rien. C'est le calme des cimetières. Vous savez, les femmes du Maniema, n'ont pas l'habitude de chercher de l'argent. Leur façon de chercher de l'argent, c'est dans le sexe. Elles se prostituent pour avoir de l'argent. Et puis dans la province du Maniema, il y a des carrières, il y a des carrières de mines, un peu partout. Maintenant, dans des carrières de mines, c'est là que toutes les femmes vont faire la prostitution. Dans des carrières-là, aucune sensibilisation, aucune campagne de sensibilisation de lutte contre le VIH-SIDA. Et puis tout ça, on ne dit rien. Et au centre-ville, il y a plein de maisons de prostitution qui finissent, on appelle ça qui finissent, aux yeux des autorités, où ils ne disent rien. Même ces associations-là ne vont pas là-bas pour interdire ces femmes-là de faire la prostitution. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire pour ma contribution? J'aimerais dire ceci. Pour lutter contre les VIH-SIDA, il fallait d'abord supprimer, il fallait d'abord fermer toutes les portes de ces maisons-là qui font la prostitution et chasser toutes les femmes-là, les encadrer d'une autre façon-là, les sensibiliser. De deux, dans des écoles, vous savez aujourd'hui, dans des écoles, ce n'est pas un secret, les enseignants et les élèves se prostituent. Mais là, on ne sensibilise pas. Il n'y a aucun programme de lutte contre les SIDA dans leur programme. Il faudrait aussi insérer les programmes de lutte contre les SIDA dans les programmes nationaux, dans les écoles secondaires, pour que ces enfants-là qui grandissent puissent apprendre, qui grandissent avec la notion de lutte contre les SIDA. Moi qui vous parle, j'ai un titre académique, mais moi je ne maîtrise pas ce secteur-là. Je ne sais pas comment éviter ça. On me dit qu'il faut porter seulement les condoms, il faut utiliser des rames, pas des rames, n'importe comment, juste ça. Mais d'autres précautions, on ne sait pas. Superficiellement, voilà. Sinon on connaît ça.
Merci beaucoup, ami. Si vous savez, il y a beaucoup d'appels sur notre standard, mais vous avez donné des témoignages à Kindu, ce qu'on appelle les Kifinini en Swahili. Cela veut dire les maisons de tolérance. Vous dites qu'il y en a beaucoup dans la ville de Kindu, mais curieusement, c'est en silence radio. Les autorités ne semblent pas se pencher sur ces problèmes des maisons de tolérance, les maisons de prostitution. Et il y a aussi la multitude multiplicité des sites d'exploitation minière où beaucoup de femmes se rendent et là elles se livrent à la prostitution dans les sites d'exploitation minière. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de descente dans ces sites là où les gens exploitent les minéraux pour les sensibiliser. Mais vous souhaitez aussi dans vos propositions qu'on puisse avoir dans le programme de l'enseignement secondaire que la lutte contre le sida soit insérée dans le programme de l'enseignement secondaire. Cela permettra à ce que les enseignants et les élèves discutent à tout moment sur le VIH-SIDA. Voilà autant de propositions pour renforcer la lutte. Merci beaucoup, Amissi de Kindou. Jonas, vous êtes à Lubumbashi, dans les Katanga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Quelles sont les stratégies à Lubumbashi aujourd'hui, quand vous regardez la ville dans la lutte contre le VIH-SIDA? Qu'est-ce que vous vivez présentement qui est fait dans cette lutte, Jonas?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je commence par saluer tous les auditeurs et puis notre invité qui est en ligne, sans vous oublier, vous.
Merci, merci.
Vous savez que ça fait mal quand, jusque là, en 21e siècle, je crois plus de 20 ans après la découverte de l'infection de VIH-SIDA, il y a encore de nouvelles infections. Il y a de nouvelles personnes qui continuent à se faire infecter du VIH-SIDA. Tout cela montre que la sensibilisation n'est pas efficace. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai suivi votre invité qui disait qu'il était satisfait de l'évolution de la lutte contre le VIH. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt une honte que de dire que c'est une satisfaction, parce qu'il y a beaucoup plus de nombre de PVV qui sont pris à charge, qui prennent les antirétroviraux. Je pense que on serait beaucoup plus satisfait s'il y avait zéro nouvelle infection. Parce que je vous dis, à Lubumbashi, dans la grande ville où nous sommes, il y a encore les gens qui ignorent de ce que c'est le VIH-SIDA, comme le disait le premier intervenant là. Non seulement à Lubumbashi, je fais un tour sur la route Kasenga vers le parc national de Kundelungu, mais j'ai vu comment les gens sont en train de se faire prostituer sans tenir compte qu'il y a une infection de VIH-SIDA qu'il faut éviter. Donc je pense que l'argent qu'on est en train de mettre en jeu pour la fabrication, c'est pas moi de préservatifs, cet argent serait mieux qu'on mette ça en jeu pour la sensibilisation de la population. Il n'est pas normal que 20 ans après, le gouvernement congolais n'a pas une bonne politique de sensibilisation de la population. Là, quand vous parlez de la population, de la sensibilisation, c'est dans quelques villes seulement du pays. Alors que le pays est vaste, dans des villages, au fin fond, la maladie existe. Les gens se prostituent sans tenir compte qu'il y a un danger. Je pense que la meilleure façon de faire les choses, c'est ça. Ma proposition serait de demander au gouvernement de mettre beaucoup plus de moyens pour la sensibilisation qui est de fabriquer, pour de distribuer les préservatifs qui peut-être on utilise pas très mal, bien qu'on peut avoir des préservatifs, mais en faisant les rapports sexuels mal protégés, on risque de se faire infecter facilement.
Merci Jonas, vous êtes à Lubumbashi, vous avez dit à notre invité que vous n'êtes pas satisfait du fait qu'ils disent que l'évolution, on peut s'inscrire dans la positivité. Pour vous, on pouvait dire que la lutte est positive quand on pourra vivre zéro nouvelle infection, comme ça a été bien sûr le slogan de la célébration il y a, je crois bien, une année passée, zéro nouvelle infection. Vous souhaitez qu'on arrive à ça, et c'est alors qu'on pourra dire qu'on est satisfait sur le travail que nous faisons dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et là, vous êtes revenu aussi sur le renforcement de la sensibilisation, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont ignorants. Je ne sais pas si la réalisation, Jonas est encore avec nous. Jonas, vous êtes encore sur les antennes? Jonas, vous êtes avec nous? Malheureusement, on a perdu Jonas. J'allais bien lui poser cette question que je vais poser à Maître Gaston. Maître Gaston, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Merci. merci. À vous aussi, bonjour. Merci à Kinshasa, non, le bon
matin. Ah, maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. J'allais poser cette question à Jonas. Quand on parle du renforcement de la sensibilisation, les auditeurs, parce qu'on écoute beaucoup nos auditeurs, on a toujours tendance à responsabiliser quelqu'un d'autre. Pourquoi l'État, on n'organise pas la sensibilisation? Pourquoi les écoles, les ONG? Ça dit qu'on a tendance à s'éloigner soi-même dans cette responsabilité des sensibilisations. Pensez-vous vraiment que la sensibilisation sur le VIH-SIDA, c'est une question d'une autre personne ou soi-même, on peut déjà s'engager à cela, et si on s'engage, on peut assez contribuer à freiner la propagation de cette maladie, maître Gaston?
Bon, disons que les gens sont au courant de cette maladie, hein. Nous, c'est depuis l'enfance qu'on nous parlait de cette maladie. Je pense aussi que tout le monde connaît cette maladie depuis longtemps. C'est une maladie que nous connaissons. Sur le plan des connaissances, nous savons que c'est une maladie qui existe. Mais le problème, c'est que nous voyons que jusque-là, il y a des gens bien qui sont au courant, mais qui se trouvent parmi les contaminés. Mais j'allais aussi dire une chose. Vous savez que le vrai problème au niveau des gens qui sont censés, comme vous avez parlé d'un organe là, je pense PNMLF qui est chargé de ça. Cet organe, vous savez que non, dans la plupart des cas, les gens qui sont censés sensibiliser pour cette maladie envisagent plus leurs intérêts, hein. C'est devenu maintenant un marché, vous voyez, hein, donc les ONG, c'est un marché pour eux, comment faire concevoir des projets en fait de gagner de l'argent, qui ne seront même pas investis dans ce cadre-là. Mm-hmm. Mais il est vrai aussi que nous, personnellement, les individus, nous devons avoir une conscience, parce que vous allez constater que devant l'acte sexuel, souvent les Noirs n'ont pas tendance à réfléchir, hein. Donc même s'il y a un danger, imaginez-vous comment est-ce que nous mettons les enfants, nous appelons les enfants en désordre dans ce monde. Il y a des moyens de prévention, mais nous ne les appliquons pas. Et lorsqu'on ne les applique pas, là, on agit comme les animaux. Et nous devons nous attendre à de pareils résultats. Mais il est aussi vrai que les nombres qu'on est en train de faire allusion là, c'est un nombre, à mon avis, le chiffre noir n'est pas connu. Vous savez que les gens, si on regarde bien, beaucoup sont contaminés, mais les gens n'ont pas tendance à aller faire les tests. Alors, comment on saura qui est contaminé, qui ne l'est pas? Donc, il faut aussi faire un effort pour que tout le monde ait conscience d'aller faire les tests, parce que lorsqu'on ne les fait pas, on ne saura pas connaître, on n'aura pas un nombre exact de ceux qui sont contaminés ici, mm-hmm, chez nous. Mais nous voulons aussi stigmatiser les comportements des médecins, d'autres médecins qui aujourd'hui, une fois qu'on constate cette maladie-là, ils vous exposent au public, et voilà, qui fera que devant les comportements de ces publics-là qui va vous considérer comme un élément dangereux, ils vont vous pousser rapidement à la mort, et les médecins doivent jouer avec la discrétion parce que ils sont à la base de beaucoup de stigmatisation de ces maladies-là. Et puis, disons aussi un mot de la fin, que il est important que nous puissions savoir que si aujourd'hui le sida, c'est une actualité chez nous, c'est parce que nous nous livrons souvent à des actes sexuels sans protéger à cause de la pauvreté, à cause de la carence, voilà, des trucs comme ça. Il faut jouer avec cet élément-là, ça fera que non, les gens vont commencer à banaliser l'acte sexuel, et surtout que le sida est souvent transmis dans le cas de notre pays par ces voies-là. Ça va vraiment aider.
Merci beaucoup, maître Gaston. Nous avons Omar qui est à Kinshasa et Elodie à Guémena. Gardez la ligne, il est temps que l'invité puisse réagir à ces quelques propositions de nos auditeurs. Je rappelle encore le numéro pour, si vous voulez intervenir en direct, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Docteur Henri Mukumbi, vous avez suivi encore quatre auditeurs, hein, la Guilwa de Kalemie, Amis de Kindu, Jonas de Lubumbashi et maître Gaston qui est ici à Kinshasa. La Guilwa voudrait savoir si on peut déjà avoir des statistiques pour 2014. Je venais de lui dire qu'on est en début d'année. Je ne sais pas si c'est possible au niveau de vos structures. Mais il a beaucoup insisté sur la stigmatisation qui amène beaucoup de gens à avoir peur de se faire dépister. C'est qu'il faut aussi un travail dans le cadre des changements de comportement pour qu'on ait aussi un autre votre regard sur les personnes qui sont contaminées, mais il a incité sur le renforcement des capacités de médecins. J'allais aussi ajouter cette question sur est-ce qu'aujourd'hui au Congo, c'est tous les centres, c'est chaque personne qui est en mesure de pouvoir, après dépistage, administrer les antirétroviraux pour lier la question au problème de renforcement des capacités de médecins. Voilà un peu ses préoccupations, mais il y a aussi d'autres amis ici qui a parlé des sites miniers aujourd'hui qui sont beaucoup plus exposés. Il n'y a pas de sensibilisation. Le programme scolaire avec le VIH/SIDA, il y a Jonas qui a beaucoup insisté, hein, qui a dit même, comme on n'a pas encore atteint zéro nouvelle infection, on ne peut pas dire que la lutte évolue positivement. Et Maître Gaston est revenu aussi sur le problème de le secret professionnel, mais la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie qui peuvent amener les gens à pouvoir changer leur comportement. Voilà un peu toutes ces préoccupations ramassées des auditeurs. On vous écoute, docteur.
Ok, merci. D'abord, je félicite et j'encourage tous les auditeurs. C'est vraiment intéressant de faire ce débat. Ça montre que les gens sont de plus en plus sensibles à ce problème. Mm-hmm. Rapidement, mon ami Nabouedi de Calémie, en effet, il m'a demandé des statistiques. Nous sommes en 2014 au début, donc c'est difficile de donner ce 2014 comme le journaliste l'a dit. Mais néanmoins, nous avons quand même le feedback de l'année passée et nous savons qu'aujourd'hui, avec les dernières enquêtes qu'on a faites dans l'ensemble du pays, nous sommes à peu près à une prévalence de 1.3, 1.4. Mais j'ai dit quelque chose d'important par rapport à l'est du pays. Nous avons des épicentres qui font 3% et à Lubumbashi, par exemple, dans certaines zones autour de Lubumbashi, on a même 4%. Donc, les points les plus élevés. 4%, c'est-à-dire sur 100 personnes qui passent sur la rue, 4 peuvent être infectées. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la séroprévalence. Mais il y a même des poches où c'est un peu plus 6%. Mm-hmm. Et des poches surtout autour des zones minières, on va en parler. Mais ceci dit, quand on parle de chiffres, ce qui est important à savoir, c'est comment évoluent les chiffres. Pourquoi ça augmente, pourquoi ça diminue. Le chiffre peut être de, par exemple, on dit c'est 5%, mais s'il y a beaucoup de morts chaque jour, ben les prochains sera 4%, pas parce que c'est bien, mais parce que tout le monde est mort. Donc on peut se condamner, dire, ah, les chiffres ont diminué, mm-hmm. nous sommes contents, mais non, c'est une mauvaise prise en charge, on n'a pas soigné les gens. Mm-hmm. Vous allez dans les pays de l'Australie, vous trouvez des surveillances élevées, parce que tout le monde est pris en charge médicalement, les gens ne meurent pas. Donc, on continue à les compter, ils sont soignés, mais bien sûr, il y a aussi la sécurité qui est très élevée. Donc, les chiffres doivent être bien compris selon leur contexte. Mm-hmm. Ici, chez nous, il faut comprendre que si la prise en charge n'est pas bien faite, il y a beaucoup de morts, la surveillance peut diminuer, mais il faut surtout en amont faire une bonne prévention pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infections. Rapidement, il a un autre avis toujours à parler des problèmes de stratégie, par exemple, qu'est-ce que la prise en charge psychologique existe. Là, nous devions de tout en consigne et au dépistage. En effet, ça rejoint encore le renforcement des capacités du personnel. Mais là, j'y adhère. Il faut former des personnels médicaux, paramédicaux, les infirmiers et autres, pour pouvoir communiquer convenablement. La sérologie VIH, c'est-à-dire dire à quelqu'un qui est positif ou négatif, ça ne se fait pas comme des arachides que l'on jette ou que l'on donne ou que l'on vend sur la rue. Il faut un climat de confidentialité acoustique, visuelle, c'est-à-dire un bon consigne en amont et en avant. On prépare le client. C'est quoi le résultat? Qu'est-ce que sont les actions qu'il doit avoir? On lui demande sa volonté, donc le consentement éclairé, et on lui donne son résultat dans un cadre bon. Moi, dans mon expérience, ça se passe très bien, même quand on amène des malades très réticents, mais quand vous les préparez très bien, la communication est faite. Mm-hmm. Mais ceci dit, il faut que tout le monde soit formé dans les équipes médicales. Pas seulement les médecins, pas seulement les infirmiers, mais tous ceux qui travaillent à l'hôpital et les conseillers. Et ça, j'en profite pour dire, quand on a bien préparé quelqu'un psychologiquement, ça passe très bien. Et j'ajoute aussi à une question, est-ce qu'il y a suffisamment de personnel pour donner des ARV? Pour donner des antirétroviraux, en effet, c'est une précision médicale. Donc il faut avoir des formations médicales, mm-hmm. il faut savoir comment est-ce qu'on prescrit les médicaments. Et pour savoir comment on prescrit les médicaments, il faut savoir toute la pharmacologie spéciale, générale, il faut savoir la pharmacodynamie. Donc il y a beaucoup de choses en amont. Prescrire ne signifie pas seulement se mettre à écrire un petit papier rapidement, c'est savoir faire la clinique et la corroborer aux médicaments qu'on va donner. Mmh. Donc, il faut une formation. Et là, aujourd'hui, dans les curriculums de formation universitaire, par exemple, à l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, en cours de médecine interne, en cours de pharmacologie, on parle déjà des ARV, on parle de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, même dans les écoles infirmières, donc dans les curricula de formation, ça entre. Mmh. Mais il faut continuer à former du personnel pour que tous les médecins qui sont de l'université, par exemple, aient déjà appris à comment préciser des ARV. Il ne faut pas que ce soit mystique ni au mystère pour qu'on fasse des formations magistrales pour apprendre ça. Ce sont des médicaments comme tous les médicaments. Donc, on peut former comme on forme tous les médecins et tous les infirmiers. Rapidement, notre ami Sidekindo à parler des zones de carrière de la prostitution, ces fameuses maisons qui se moulent ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un plus très fort qu'il a fait là. Les autorités doivent ouvrir l'œil. Le combat de lutte contre les sida n'est pas seulement un combat des professionnels ou des ONG, c'est le combat de tout le monde et des autorités. S'il y a une prostitution qui prolifère, il faut lutter contre la prostitution. Lutter contre la prostitution, d'une part, c'est vrai, c'est donner des règles qui prédisent ça, mais donner du travail à ces femmes, encadrer ces femmes, accroître leur revenu financier pour qu'elles fassent pas la prostitution, les éduquer, les églises, donc tout le monde doit participer. Une prostitution, c'est pas d'exprimer la maison, on peut la faire officiellement, mais les gens vont faire cette prostitution derrière la maison. Donc c'est important. Dans les zones minières, et là je rejoins aussi rapidement notre ami Jonas de Lumumbashi.
Oui, oui.
Je suis, au moment où je parle, moi j'habite Kinshasa, mais là je suis à Kolozi. Mais hier, j'étais sur la route, j'ai vu pas mal de camions, énormément, et quand on voit les unes des entreprises de Lumumbashi ici, l'état que nous voyons, vous sentez que les entreprises minières croissent comme des champions au Katanga. Mais directement, vous posez la question, tout cet argent que ces entreprises minières gagnent dans l'état, qu'est-ce qu'on en fait? Donc le problème, quand on dit privatif quoi, il faut être comme la Jecamine ancienne, la Jecamine créait un programme d'exploitation minière, mais avec un programme social tout autour, des écoles, des hôpitaux, on éduquait la population, c'est comme ça que les enfants de la Jecamine ont grandi convenablement. Mais aujourd'hui, comment les mining se développent? On vend tout, même la terre, on vend des camions qui passent avec de la terre qui passe, mais est-ce qu'on met des hôpitaux? Il y a certaines entreprises ici, j'ai appris, Moumi et d'autres qui ont des centres de santé, tel que Fungu, mais ils ont un grand programme de lutte contre le sida pour leurs travailleurs, mais il faut encourager toutes les entreprises de mines qui viennent chercher beaucoup d'argent ici, à investir aussi dans l'éducation et dans le social autour de tout. J'ai vu sur la route hier des petits villages, on m'a dit qu'ils sont des villages de trésors, en effet c'est plein de prostituées. Mais c'est pas possible, on ne fait rien pour ces gens. Les gens viennent chercher des millions
Docteur, docteur Henri, s'il vous plaît.
On envoie par centaines par milliers. Donc, je disais à mon ami Jonas, il y a de l'argent qu'on peut aussi transformer. Pas seulement, j'ai vu beaucoup de types à Lumumbashi sur la route, c'est plein d'embouteillages. Moi, j'ai vécu à Lumumbashi à 20-30 ans, c'était pas comme ça, mais je suis surpris. Donc, les gens ont l'argent dans la poche. Il ne faut pas attendre que ce soit le gouvernement qui donne. Nous devons tous être conscients que...
Oui, docteur Henri, rapidement, répondez aussi à Gaston, parce qu'il y a deux deniers solitaires sur les antennes, là, les temps
de... Gaston, parler du secret professionnel, je crois qu'il faut former les médecins.
Oui.
Pour lutter contre les médecins qui jettent à la rue comme ça, dans la comptoir, c'est à s'écrier. Mais il a parlé de la pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté pour que la sexualité aussi ne soit pas fondue.
Voilà, permettez...
Il y a des bonnes ONG qui font des bons projets, donc il faut repenser que tout le monde a lutté contre les états en train de chercher l'argent. Là, c'est aussi une fausse notion. Donc,
voilà.
Il y a des choses bien qui se passent.
Oui,
je termine en disant, Jonas, ça dit zéro infection. En effet, ça, c'est l'idéal dans lequel nous tendons. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un progrès? On a certainement des progrès. C'est qu'il faut reconnaître qu'il faut être, on est optimiste. Mais on n'a pas encore atteint cet idéal international. Mais nous tous, nous tendons vers cet idéal de zéro infection, de zéro stigmatisation, de zéro mortalité.
Donc, oui, permettez maintenant, docteur Henri, permettez qu'on écoute les deux derniers auditeurs. Rapidement, on va revenir à vous pour conclure parce que là, les temps nous bousculent. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bien bonjour, bien Omar.
Bonjour à l'invité.
Et vous voyez que nous avons les difficultés de gestion pour le moment parce que là, il nous reste que 3 minutes. On a besoin de vous écouter Elodie et conclure. En une minute, tout ce que vous alliez dire, Omar, en termes de propositions, qu'est-ce qui doit être fait?
Merci beaucoup, Pierrot. Puisque le temps fait défaut, je voudrais seulement m'en aller aux propositions. Comme il a été démontré que le bilan, à mon avis, est négatif parce que beaucoup des malades ne sont pas pris en charge, on continue à faire payer les gens les dépistages alors que la loi dit c'est obligatoire et il n'y a pas une sensibilisation correcte. Je voudrais premièrement que le gouvernement mette assez de moyens à ces programmes pour bien nous permettre de travailler. Deux, il faut que la communication ne se limite pas à la télévision, à la radio, dans des conférences, car tous les Congolais n'ont pas accès à ces histoires-là. Il faudra faire la communication interpersonnelle dans les écoles, au travers des théâtres et des médias, on pourra n'est-ce pas atteindre tout le monde. Et enfin, je voudrais que tous les autres acteurs sociaux, à part le PNMLS, à savoir l'école, la famille, l'église, jouent également son rôle, car le problème de la lutte contre le sida est un problème qui concerne tout le monde.
Okay.
Et enfin, pour finir, il faut que le pouvoir judiciaire, à savoir le magistrat, puisse commencer à punir tous ceux qui discriminent et stigmatisent les personnes vont avec le VIH.
Merci
voilà
beaucoup, Omar.
Mes propositions.
Merci.
Plus que les temps défendent.
Merci beaucoup, Omar, pour toutes ces propositions. Elodie, vous nous appelez des Guémena dans la province de l'Équateur. Si on vous écoute, Omar a pris une minute. Vous, c'est 50 secondes, Elodie. Bonjour, on vous écoute.
Ah, bonjour, moi aussi, faute du temps, je prends aussi directement les propositions. Parce que nous, à Guémena, on a un système, là, on a une journée que tout le monde connaît, que c'est le séropositif qui est à l'hôpital général prendre les ARV. Alors, on les met dans un pavillon là. Tous les malades qui viennent, quand ils voient ces gens-là regroupés, ils sachent qu'ils sont venus prendre les ARV. Alors, chacun peut retenir la figure de n'importe qui. Mm-hmm. Au sortant, il peut pointer du doigt que tel est séropositif, tel est
stigmatisé, voilà.
Alors, cette pratique-là, elle retient mm-hmm. d'aller au centre de counseling. Il y a aussi des organisations qui donnent de la nourriture, tels les aliments pour leur santé, pour leur bonne santé. Alors, ces organisations-là sont connues. Quand quelqu'un passe, il les voit en groupe en train de bénéficier de l'huile, de semoule.
Et directement, il est stigmatisé, voilà.
Et cette pratique-là fait que les gens se retiennent et n'aiment pas se présenter
merci.
Centre de counseling aussi.
Pour les dépistages. Merci beaucoup, Elodie. Désolé.
Faute de temps,
vraiment. Merci. Mais ce n'est pas la dernière émission. On pourra revenir pour parler du VIH/SIDA. On revient à vous, docteur Henri Mukumbi, parce que là, on doit conclure cette émission. On a suivi les uns et les autres, nous sommes tous d'accord qu'il y a encore beaucoup de défis, c'est pourquoi on ne cessera jamais d'en parler aussi dans cette émission, Parole aux auditeurs. Et en une minute et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout en termes aussi des conclusions, docteur Henri Mukumbi?
Je crois que le sida est l'affaire de tout le monde d'abord, des parents, des enfants, des élèves, des professeurs, de toute la société. Nous ne devons pas rejeter la balle chez les autres, mais chacun là où il est doit faire quelque chose. De deux, il faut que notre plaidoyer continue auprès de nos gouvernants et tous les hommes d'affaires pour que l'argent accroisse. Il ne faut pas seulement que ce soit les étrangers qui donnent 95% d'argent, mais nous avons beaucoup de moyens ici au Congo, nous pouvons facilement contribuer à la lutte contre le sida. En effet, nous devons tous avoir l'idée que nous devons faire le dépistage, tous, et encourager, pour que demain nous puissions tendre à ce que nous appelons les zéro infection, zéro stigmatisation. On a parlé de la stigmatisation, il faut lutter la stigmatisation dans tous les sens, où que nous soyons. C'est bien que les gens donnent à manger, c'est bien que les gens donnent des médicaments, mais il faut créer un environnement peut-être plus confidentiel pour que cette nourriture parvienne sans stigmatisation. Mm-hmm. Donc là, c'est l'appel à tout le monde. La lutte contre le sida est un match qui doit être joué par tout le monde. Il n'y a pas de spectateurs et des joueurs.
Merci.
Tout le monde doit être sur le terrain. Mm-hmm. Voilà.
Merci beaucoup, docteur.
Merci à nos auditeurs pour nous avoir suivis.
Merci. Merci aussi à vous, parce que vous avez accepté de nous accorder de votre temps en dehors de tout ce que vous avez comme activité sur place à Kolwezi. Nous vous disons sincèrement merci. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs exécutifs de HS Amo Congo, une ONG congolaise engagée dans la lutte contre le VIH/SIDA. Nous disons merci aux auditeurs, ils ont été très nombreux à vouloir intervenir. Merci beaucoup pour avoir contribué dans cette émission consacrée à la lutte contre le VIH/SIDA. On se retrouve le lundi à 11h03 heure de Kinshasa. La coalition politique Sauvons, la RDC, a lancé il y a quelques temps une pétition demandant la démission du président de la CENI. Elle reproche à l'abbé Apollinaire Malumalu notamment la violation de l'article 197 de la Constitution relatif à la tenue des élections des députés provinciaux au suffrage universel indirect et aussi le fait de n'avoir pas procédé à l'audit du fichier électoral tel qu'exigé par les forces vives de la nation. Par ailleurs, la CENI propose le couplage des élections locales et provinciales en début d'année 2015. Comment commentez-vous cette actualité? On se retrouve le lundi. Merci à Gérard Lungembo qui nous a aidé à réaliser et coordonner cette émission mise en onde par Willem Lungamba. Ben Kabamba l'a supervisé et Pierrot Elameji vous l'a présenté. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs ce soir à 20h03 à Kinshasa en rediffusion. Et il me reste à vous souhaiter un bon week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.